I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
La personnalité s'affirme par ses limites. André Gide. Connaître ses limites, c'est bien. Malheureusement, on ne les connaît que de l'intérieur. Grégoire Lacroix. Nous avons, chacun d'entre nous, l'équivalent d'une enveloppe invisible, plus ou moins poreuse, qui marque les frontières et parfois les limites extrêmes de notre territoire intime. Cette enveloppe détermine ainsi la zone à ne pas franchir sans autorisation, sans accord de notre part. En se frottant à l'enveloppe invisible de celui qui est en face de nous, elle marque en fait la bonne distance que nous devons conserver pour pouvoir échanger sans nous sentir menacés, violentés ou risquer de se meurtrir. Jacques Salomé. Bonjour à tous, c'est Emmanuel Robitaille avec vous pour les prochaines 60 minutes. 60 minutes où on abordera, vous l'aurez deviné, les limites. Est-ce que vous en avez des limites? Est-ce que vous les connaissez, vos limites? Et est-ce que vous les respectez? Ça, c'est comme trois phases distinctes et importantes relatives à la reconnaissance et à l'application de nos limites. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté parfois à les reconnaître et encore à les appliquer? C'est quoi les indices que nos limites ont été dépassées? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les connaître, pour mieux les respecter également? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi des limites qu'on s'impose, hein? Des limites qui nous sont imposées, des limites qu'on met dans nos têtes, des limites limitatives, pour avoir beaucoup de vocabulaire ici, hein? Et est-ce qu'il y a des limites saines? Et encore, est-ce qu'il y a des limites qui sont essentielles? On parle de limites aujourd'hui avec nos invités Rémi Thériault et Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à On est tous des humains.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Jean-Marie Lapointe.
Oui.
Tu es en forme, ça c'est la première des choses.
Je pense que oui.
T'es un comédien, t'es un acteur, un musicien, un auteur, un athlète, un animateur, un humain pour qui les limites sont rarement atteintes et qui semble vouloir toujours les dépasser. D'ailleurs, ta relation avec les limites, on va en parler, elle est longue, elle est constante, elle a été testée à maintes reprises.
Tu trouves?
Tu trouves pas?
Je sais pas. Où t'as vu ça?
On va en parler ensemble. Que ce soit dans les sports que t'as pratiqué, juste là, on peut voir que c'est toujours présent. Dans les défis professionnels que tu t'es lancé, mais également sur le plan de tes limites plus personnelles. Elles ont été franchies, elles ont été définies ou à définir, à redéfinir. Tu as eu à les apprivoiser, à les connaître. Et c'est un chemin que tu connais bien et tu vas nous en parler de ça dans la prochaine heure. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation.
Alléluia.
Rémi Thériault, c'est ton deuxième passage à l'émission. On connaît, on est tous des humains. On a parlé avec toi d'altruisme parce qu'en tant qu'étudiant ou doctorant en psychologie, tu t'intéresses à la psychologie sociale, aux comportements pro-sociaux des gens, plus particulièrement avec une thèse qui s'intitule « Transformer les habitudes du cœur et de l'esprit de bonnes intentions à une réponse pro-sociale fiable ». On voit avec toi comment les habitudes du cœur et de l'esprit peuvent s'appliquer aux limites à établir et à dépasser, finalement, pour garder son fonctionnement social et personnel optimal et harmonieux, tant avec soi-même, on va se le dire, qu'avec les autres. Merci beaucoup d'être là pour une deuxième fois.
Merci à toi.
Quand on dit limite, qu'est-ce qui vous vient d'emblée à l'esprit? Parlant d'esprit et de cœur de l'homme.
Rémi, tu plonges ça en premier?
Je te commets.
On a un doctorat.
Je peux bien y aller.
Go.
Mais il faut dire que ma recherche n'est pas là-dessus, fait que je parle plus de mon expérience personnelle. Mais quand
tu parles en tant qu'humain de connaissance.
En tant qu'humain, j'aime ça.
Qui réfléchit. Vas-y.
Tout à fait. Donc, premièrement, quand je pense aux limites, j'imagine que c'est un peu relatif dans le sens que c'est une conception très personnelle de qu'est-ce que les limites. Parce que je pense souvent au fait que c'est quelque chose effectivement qu'on peut transcender, qui est temporaire aussi des fois. Puis que, notamment, on parle de dépasser nos limites, mais moi j'ai plus l'idée que les limites sont dans la perception de l'individu.
Oui, parce que tu as une théorie du mindset que tu vas nous parler un petit peu plus tard dans l'émission et qui sert à soit justement nous améliorer, mais qui peut également nous arrêter énormément dans nos allées et dans nos désirs, on va se le dire. Toi, Jean-Marie, quand je te dis limite, tu penses à quoi?
Ben, limite de vitesse. Il y a une raison pourquoi on met une limite de vitesse sur l'autoroute. C'est aussi par souci de protection. Ça peut être très constructif. Puis des fois, ben, c'est sûr que si on dit 100 km/h, pas plus vite, tu dépasses un peu la limite, on va tolérer. Le policier va t'arrêter si tu exagères. Il y a des limites qu'on s'impose, comme tu dis tantôt, Manu, mais en même temps, je pense que des limites, moi, celles que j'avais à 17 ans et celles que j'ai à 50 ans passés, sont pas les mêmes. Donc, il y a des choses qui changent en vieillissant. Et que je te dirais que c'est quelque chose qui peut fluctuer, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Donc, il y a un aspect qui est assez rigide dans les limites, puis il y a un aspect qui est très, très, très négociable, malléable.
Il y a un paradoxe absolument incroyable dans l'aspect limite. Et voyez-vous, cet aspect variable-là, pour moi, ça m'était zéro venu.
Pourquoi?
Et c'est là, c'est pas quelque chose à quoi je pensais, parce que justement, c'est tellement vaste, le champ des limites, que je me dis, à quoi tu penses au départ? Moi, je pense surtout à la limite, la frontière entre moi et l'autre, les limites que je souhaite faire respecter pour moi-même. Cette idée de limite de vitesse, là, m'est venue également. Et encore une fois, les limites dans nos têtes, des limites limitatives. Cette idée-là que ces limites-là peuvent changer m'était pas venue à l'esprit. Et c'est vrai, et tu le dis, tu as cheminé beaucoup à travers tes propres limites, dans le respect ou non de ces limites-là, à l'âge où tu es rendu, au moment présent, c'est quoi la limite la plus importante pour toi? Parce qu'on peut parler de limites, je vais juste faire un wrap-up, là, de dire, on peut parler de limites physiques dans nos capacités. Par exemple, je peux lever 500 livres, je peux pas lever 500 livres, OK? On peut parler également de limites sur le plan de nos connaissances, de l'ouverture d'esprit, t'sais, on s'entend. On peut parler également de limites dans l'aspect intime, dans l'aspect interpersonnel, jusqu'où je peux aller, jusqu'où l'autre personne peut aller. C'est quoi la plus importante ou encore la plus difficile pour toi?
Très bonne question. Je pense que ça va aussi avec mon bien-être. Puis qu'en même temps, c'est un peu comme derrière le volant. Si sur mon tableau de bord, il y a une lumière rouge qui allume, c'est que ça m'envoie un signal. Donc, si moi, je ressens un inconfort, par exemple, je dois sauter en parachute. C'est sûr que c'est épeurant, je suis nerveux, j'aurais envie de ne pas sauter pantoute. Puis en même temps, cette limite-là, m'envoie un signal, t'es sûr que tu veux sauter, c'est dangereux, si ton parachute s'ouvre pas, tu vas te tuer, bon. Puis là, il y a évidemment mon cinéma mental qui se fait aller. Et que, il y a une citation que j'aime beaucoup, puis je sais que t'aimes commencer ton émission avec des citations, il y en a une qui dit « Ouvre la porte de la peur, derrière se tient la guérison. » À chaque fois que j'ai osé regarder mes peurs, celles qu'on m'imposait ou celles que je me créais, à chaque fois que je les ai regardées, elles se sont dissoutes, elles ont disparu. Donc, il y a un lien avec la limite. Donc, si moi, je pense avoir atteint ma limite, non, je ne suis pas capable de sauter en parachute, et que finalement, la porte de la peur de l'avion s'ouvre et que mon instructeur me prend par la main puis qu'il me dise « J'ai confiance en toi, je suis avec toi, je saute avec toi. » Donc, je vois le potentiel en toi que tu puisses franchir cette limite-là. Même si moi, je ne le vois pas, mais peut-être parce que moi, j'y fais confiance, j'ai dit, il y en a vu d'autres, il a sauté des milliers de fois, OK, go.
Donc, pour toi, ça serait quoi? Ça serait le plus important, ça serait de dépasser ses limites limitatives mentales?
Oui, parce qu'en même temps, les limites que j'avais à 15 ans, à 30 ans, puis à 50 ans ne sont pas les mêmes, ça bouge. Puis à chaque fois que je les ai dépassées, j'ai grandi. J'ai grandi de cette expérience-là. Donc, je pense que ça va avec le feeling que j'ai à l'intérieur, qui est peut-être au début de la peur, Et c'est très simple, parce que si j'ai pas peur, je peux peut-être être nonchalant. Ou pas
et
assez
négligent.
Et négligent et pas assez vigilant.
Rémi, Jean-Marie a parlé de quelque chose de très important, c'est-à-dire les réactions qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui nous indiquent des fois qu'une limite peut être atteinte. Et ça, pour toi, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est évident.
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que, dans le fond, souvent, le corps va communiquer avec nous à travers nos sensations pour nous indiquer s'il y a quelque chose de correct ou d'incorrect. Comme on disait, la lumière rouge sur le dashboard de la voiture, c'est un peu ce que le corps va nous faire à travers les émotions et les sensations corporelles. Puis, il faut être à l'écoute du corps, puis notamment, tu sais, avec la présence attentive, la pleine conscience, la méditation, ça peut nous aider à détecter des signaux très subtils qui nous indiquent « Oh! » Ça veut dire quelque chose, puis il faut que je prenne action. Il faut que je le considère dans mon comportement. Peut-être que je suis en train de dépasser mes limites du moment.
Mais c'est intéressant parce que puis ça m'amène cette question-là, puis on va prendre une chanson pour y penser. Parce qu'à quelque part, si cette sensation-là, je la ressens, c'est que je suis soit sur ma limite ou soit qu'elle est dépassée. Cette sensation-là va m'en avertir. Et donc, est-ce qu'on est malheureusement conditionné ou malheureusement pas habitué à voir que nos limites sont atteintes à temps?
Je suis borderline, perdrez-vous pas de savoir pourquoi? Je suis
On parlait de sensations et d'émotions qui sont toujours, pour toutes sortes de choses dans la vie, c'est toujours une boussole. Mais la question qui, moi, me revient constamment et sans cesse, je me dis, si je me rends là, à ressentir cette émotion-là ou cette sensation dans mon corps, je tremble parce que j'ai trop peur. J'ai-tu manqué quelque chose, quelque part? J'ai-tu manqué une étape qu'il aurait fallu que je... J'ai-tu dépassé cette limite-là puis il est trop tard? Est-ce qu'on s'en rend compte trop tard que nos limites sont dépassées?
Je pense pas qu'il soit toujours trop tard dans le sens, dans les relations, comme tu dis, interpersonnelles. Tu sais, c'est sûr que si tu fais de la plongée sous-marine, tu es à 120 pieds sous l'eau, et qu'il ne te reste plus d'air parce que tu as, de façon nonchalante, oublié de regarder ta pression d'oxygène puis, ou d'air comprimé, puis là, tu réalises, il ne me reste plus d'air. Ça se peut que ce soit trop tard. OK? Donc, dans ce cas-là, remonter à la surface peut même être dangereux si tu remontes trop vite. Là, tu sais, on s'entend. Mais j'ai l'impression qu'on a des signaux régulièrement que, oh, watch out. T'es sûr que t'es prête à vivre ça? T'es sûr que t'es
bien
là-dedans?
Mais on n'est pas habitué de les écouter. Tu sais, parce que là, tu prends un
c'est
exemple.
C'est vrai? Attends une minute, là.
Mais c'est vrai.
On n'est pas habitué. C'est moi, une belle généralité pas. Que tu
oui,
dis là, là.
Oui, j'ai l'impression qu'on nous apprend pas à s'écouter des fois.
OK. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi?
Ben, je pense que c'est surtout de communiquer avec clarté avec l'autre personne. Aussitôt qu'on voit où les choses peuvent aller, fait que c'est un peu aussi de se projeter dans le futur. OK, cette personne-là, tu sais, elle agit un peu de telle manière. Dans mon expérience, ça amène souvent là. Fait que est-ce que c'est quelque chose que je veux vivre ou est-ce que je peux prendre des mesures préalables pour éviter de me rendre là puis de faire en sorte que ma limite soit dépassée puis que je me sente pas bien après ça?
Parce que tu as nommé quelque chose avant la pause musicale. Tu as parlé de pleine conscience. Et évidemment, lorsque tu pratiques la pleine conscience dans ta façon de parler, de réfléchir, de manger, de vivre, tu es aussi en lien avec la pleine conscience de l'autre. Donc, tu vas écouter, tu vas observer les signes. Donc, exact. Si tu as dit un mot de travers et tu vois tout de suite dans le visage, il y a un petit signal que, oh, il y a quelque chose. Là, tu vas oh, j'ai-tu dit quelque chose qui t'a déplu? Alors, si t'es trop centré sur toi, puis t'es pas dans la pleine conscience, mais vraiment dans l'ego, puis t'es vraiment, c'est moi, tu t'en contrefous c'est comment l'autre va réagir, parce que t'es vraiment hyper narcissique, t'es sur tes bébites à toi. Donc, je pense que la pleine conscience, ou le fait d'être hyper vigilant ou attentif, te permet aussi de connaître si toi, t'as peut-être été loin, t'es peut-être allé trop loin, ou être témoin de l'autre aussi dans sa façon de réagir.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on est dans une zone très abstraite, c'est-à-dire les limites d'intimité, les limites interpersonnelles. Tantôt, tu as donné l'image de la plongée sous-marine où là, on a un cadran, on sait qu'on a quelque chose de très concret, on manque d'air, faut que je remonte, la limite est clairement atteinte. Ici, les zones grises, les zones floues des individus, c'est infini, là,
et
je veux
c'est
dire.
Malléable, ça bouge, ça change.
Exactement. Est-ce que on a la même capacité à respecter nos propres limites et respecter celles des autres? C'est comme, est-ce qu'on a une relation avec la limite elle-même en tant qu'entité et que quand on a une bonne relation avec les limites, on est autant capable de respecter nos limites que celles des autres, ou on peut être très bon dans nos limites, pas bon dans celles des autres, ou bon dans le respect des limites des autres, mais pas dans les nôtres, Rémi?
Mais je pense qu'en général, ils sont quand même reliés, mais sont pas nécessairement toujours, ils vont pas nécessairement toujours ensemble. Fait que je pourrais tout à fait imaginer quelqu'un qui est très sensible de ses limites, mais qui est très absorbé par lui-même ou elle-même, puis ça fait en sorte qu'effectivement, il va moins porter attention aux autres. Donc, je pense que la capacité d'empathie aussi dans ce contexte-là est très importante, de ressentir l'émotion des autres, s'imaginer à la place de l'autre personne pour comprendre, puis s'adapter pour que notre comportement soit perçu comme qu'on le désire pour cette personne-là, puis qu'on fasse plus de bien que de faux pas.
Puis je pense que ça nécessite une grande connaissance de soi. Parce que les limites, si on regarde celles que des fois on va s'imposer ou les limites interpersonnelles, moi, je pense que c'est quelque chose qui émane de moi-même en premier lieu. Par exemple, si moi, je le sais que en relation amoureuse, j'ai le rejet facile. Je me sens abandonné facilement. Puis c'est, des fois, c'est bien banal. C'est si j'envoie un texto à mon amoureuse puis que ça lui prend 15 heures avant de me répondre, ça me fait de quoi? Et là, j'exagère, mais si c'est moi, j'attends une réponse rapidement, puis on est habitué, par exemple, de s'écrire régulièrement, puis on se répond assez rapidement.
Il y a une brisure dans le patron oui, comportemental habituel.
Tout à fait, mais en même temps, si moi, je ne souffre pas d'insécurité, puis je me dis, vive et les CV, on va me répondre quand elle peut, c'est correct. Mais si moi, j'ai une petite blessure d'abandon qui réside en moi, puis qui n'a pas peut-être été soignée, ça se peut que j'ai le rejet ou la sensibilité à ça.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu me parles d'une interaction entre deux personnes. Mm-hmm. Est-ce que c'est difficile quand on se connaît mal ou qu'on connaît mal nos propres limites d'être en interaction avec quelqu'un qui les connaît très bien, qui est dans un respect fondamental de sa personne? On se heurte à des comportements qui peuvent être très mal interprétés, mais c'est quand même confrontant, quelqu'un qui met ses limites. Mm-hmm. C'est confrontant. Et est-ce que ça peut contribuer au fait qu'on a des fois de la misère à les mettre nous-mêmes? Pour ne pas devenir nous-mêmes confrontants? Parce que je sais que ça m'est
docteur,
déjà arrivé.
Docteur Rémi.
Pas encore docteur. Mais c'est une bonne question. Je n'avais pas pensé vraiment de cette manière-là.
Moi, je pense qu'on est... Parce qu'à la base, on est tous faits pour aimer puis être aimé. Ça, c'est la base de l'homme. Là. Je veux dire, quelqu'un qui me dit pas besoin d'amour, je lui dis arrête de te mentir, mon enfant. Sincèrement, je me dis, quand je ne suis pas capable de mettre une limite, quand je ne suis pas capable de te dire non, et de te dire, tu ne feras pas ça, je n'accepte pas. Je prends la chance d'être en conflit avec toi ou du moins de te déplaire. Donc là, il y a tout l'aspect de se faire juger, de ne pas se faire aimer, de ne pas être reconnu. Pour moi, tout ça, ça m'empêche ou ça m'a empêché. Ça va me réempêcher à des moments où je me douterai peut-être même pas de mettre ma limite et de me respecter.
Ben écoute, si tu n'es pas capable de mettre tes limites, t'ouvres la porte à te faire abuser, pas respecter, et même la personne va le faire de façon inconsciente. De façon, elle le sait peut-être même pas. Donc, à ce niveau-là, tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est que si tu es en relation professionnelle, personnelle, peu importe, mais avec une personne qui sait mettre ses limites, et toi, tu n'es pas capable, il y a un conflit qui s'en vient. C'est juste une question de temps que ça va arriver et qu'il va falloir avoir une conversation. Mais c'est vrai que c'est confrontant. Si tu es en relation amoureuse avec un gars, par exemple, qui est un professionnel de l'abus, puis toi, tu n'es pas capable de mettre tes limites, tu vas souffrir, ma belle. C'est clair. Mais c'est logique, il me semble. Je sais pas.
Ouais, mais c'est aussi, tu sais, c'est ça, c'est la capacité de s'affirmer. Puis ça, ça peut dépendre de la confiance en soi, de l'estime de soi, puis aussi de notre expérience. Comment ça s'est déroulé dans nos expériences passées quand on a essayé de s'affirmer, comment l'autre personne a réagi, est-ce qu'elle a bien réagi, est-ce qu'elle a mal réagi. Puis on a tous un background comme ça d'expériences qui peuvent nous influencer encore aujourd'hui.
Justement de cette fois-là où on s'est fait tasser parce qu'on a eu le malheur de se respecter dans ce qu'on est trouvé acceptable ou inacceptable. Et je pense que c'est arrivé à 100% des gens. Et si la conséquence était plus négative de se faire rejeter que de se respecter, ben à ce moment-là, ça se peut qu'on retourne dans le choix de ne pas se respecter à ce moment-là pour ne pas revivre cette conséquence. Par contre, il doit y avoir des avantages clairs à respecter nos limites.
Ça devient un peu comme un art à un moment donné, mais je pense qu'il y a une manière un peu de non contradictoire qu'à la fois tu peux t'affirmer tout en essayant d'exprimer le plus de compréhension puis d'empathie pour l'autre.
On peut respecter nos limites tout en respectant les gens.
Voilà, bien dit.
Ben, la célèbre façon d'intervenir en parlant au jeu, je veux dire, c'est pas agressant. Ouais. Tu sais, la communication non violente, parler au jeu, je veux dire, on pourrait en reparler, mais c'est sûr que ça fait partie de la base.
On va voir comment on peut parler de ça dans quelques instants. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Sky.
man by the color of his skin. And Misty, you're a better man than I. Oh. Living on the edge, you can rip yourself apart. Living on the edge, you can rip yourself apart. Living on the edge, you can rip yourself apart.
On est tous des humains, se poursuit. On continue de parler de limites avec nos invités cette semaine, Jean-Marie Lapointe et Rémi Thériault.
Stop! j'en suis, à la fin ou au début. Stop, stop, encore.
Encore.
Je marche à voile ou à vapeur, je me paye une toile ou bien une sœur. Je fais semblant ou bien j'y crois, je fais des enfants ou bien des croix. Je fais des ronds ou bien des bulles, je fais faux bon ou bien match nul. Je fais des galas ou des galères, je reste comme ça ou je persévère. Stop,
stop,
encore.
Encore.
Stop,
stop,
encore.
Encore.
Stop. Demain j'aurai 150 ans, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Demain j'aurai 150 ans, où j'en suis, à la fin ou au début? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Stop,
stop,
encore.
Encore.
Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Stop,
stop,
encore.
Encore.
Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Stop.
Qu'est-ce que je fais? Je stop ou je continue? C'est aussi souvent la question qu'on peut se poser, que ce soit dans nos relations avec les gens ou que ce soit dans des limites à dépasser dans nos têtes. On s'est posé la question tout à l'heure, c'est quoi les avantages à mettre nos limites? On sait maintenant qu'on se sent un petit peu en danger de les mettre.
Mm-hmm.
Mais en quoi ça peut m'aider d'avoir des limites claires? Pour les gens qui nous écoutent puis qui ont de la difficulté à les poser, d'avoir des avantages, ça peut nous aider à nous encourager, du moins, à en... en choisir, en trouver quelques-unes?
Bien, des limites, mettons, on y va basic. Si moi, je suis genre à être un peu plus irritable en fin de journée, peut-être que je réalise que je dors pas assez. Bien, je vais m'imposer une limite le soir, ferme le cellulaire, ferme la télé, ferme tout gadget électronique et tu t'en vas au lit à 9 heures. De 9 à 10, tu lis et tu te donnes ce temps-là. Donc, tu as l'air un peu... de toi-même, mais c'est correct, tu viens de t'imposer une limite, mais pour ton bien. C'était quoi ton intention? C'était-tu restrictif ou encore une éthique de travail, une discipline saine pour mieux te sentir le lendemain puis pour performer, pas au sens d'avoir 10 sur 10, mais avoir une vie et une journée qui est pleine de sens puis que tu sois non seulement agréable pour toi-même, mais pour les autres aussi.
As-tu cette... facilité-là à te mettre des limites à toi-même?
Oh yes, oh yes.
Oui?
Je suis un gars qui aime la discipline et on associe malheureusement le terme discipline à quelque chose d'austère, de négatif. Tu sais, la discipline, à l'école, c'est la discipline. On va voir le préfet de discipline, c'est dégueulasse ça. Non, moi, la discipline, c'est une éthique, c'est comme le plant de tomate qui a besoin de son tuteur pour que le plant pousse droit. C'est ça une éthique, c'est ça une discipline. Et dans les pratiques de méditation, on en parlait à micro fermé là, tantôt, mais je pratique la méditation depuis longtemps et la discipline, c'est vu comme quelque chose de très valorisé et que de toute façon, l'athlète olympique ne se rendra jamais à la ligne de départ du 100 mètres et aspirer à une médaille d'or s'il n'a pas une discipline de travail.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé de cette image du plant de tomate. Donc, à quelque part, les limites peuvent devenir un cadre extérieur qui nous ramène un peu, qui nous retient. Et donc, à ce moment-là, je la pose la question, est-ce qu'il y a des limites saines? Est-ce qu'il y a des limites, voire essentielles, dans la vie? Est-ce qu'elles sont essentielles, les limites?
Tu sais, je peux donner aussi un autre exemple pour ma part. Tu sais, dans mon expérience à l'université, à la maîtrise et au bac, je travaillais avec un professeur qui était mon directeur de recherche. Et lui avait tendance à demander beaucoup des étudiants. Tu sais, il demandait comme, si tu veux venir dans le lab pour avoir de l'expérience de recherche, il faut s'impliquer au moins 15 heures par semaine sur une période de 2 ans minimum. Fait que là, c'est comme, t'es pas payé, t'sais, c'est bénévole, mais les étudiants en psycho, on n'a pas le choix, il faut qu'on développe l'expérience de recherche. Fait que tu dis oui, mais là, tu veux bien paraître pour le professeur. Fait que là, il dit, tu peux-tu faire ci, tu peux-tu faire ça, tu peux-tu t'occuper du site web, tu peux-tu... Fait que là, ça fait que tu acceptes tellement de responsabilités, tu dis, je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai pas le choix d'essayer puis d'accepter. Mais que ça fait, ça finit, t'sais, ça peut finir en burn-out, ça finit, en tout cas, que t'es épuisé. Puis c'est pas facile. Fait que dans ce sens-là, moi, ça m'a pris du temps à justement mettre mes limites puis apprendre à dire non quand même. Parce que c'est quelqu'un quand même, tu sais, assez grand, intimidant puis avec une grosse voix. Fait que quand il parle, tu sais, tu l'écoutes, tu dis oui, monsieur, tu sais. Fait que, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai appris à faire de dire non, j'ai pas le temps ou l'énergie en ce moment pour prendre responsabilité de plus. Puis j'ai été étonné de voir qu'il l'a bien pris finalement quand on le dit. Mais le monde a peur de s'affirmer, il a peur de le dire.
Mm-hmm.
Mais quand tu le dis, normalement, la personne va avoir une certaine écoute pour ça.
Et c'est parce que là, tu es tout le monde à un moment ou à un autre. Ça nous est tous déjà arrivé et c'est l'exemple parfait de dire... Et la réalité au doctorat, c'est effectivement, on est 350 qui veulent entrer. Il va en avoir 32 qui vont être choisis. À ce moment-là, je dois répondre à ces exigences-là qui sont absolument hors des limites possibles que je peux prendre avec mon corps et mon esprit. Ouais. Pourquoi, finalement? Mais
le pire, c'est la peur de déplaire.
Ouais.
La peur de ne pas être à la hauteur des attentes de ton prof. Alors, à qui, finalement, tu finis par déplaire? À toi-même.
Toi-même.
Tu t'en veux. Tu arrives à la maison, tu dis, merde, j'ai encore dit oui. Maudite merde, pourquoi je ne suis pas capable de dire non? Mais c'est justement, donc, si tu es capable de t'affirmer, tu risques de gagner en respect de toi. Mm-hmm. Tu vas être fier de toi. Puis tu vas voir, le prof va te regarder à peu près et dire, cap. Bravo, bravo Rémi, merci.
Mm.
On va le demander à quelqu'un d'autre qui a un petit peu plus de temps que toi. Moi, je pense que tu gagnes en respect quand tu fais ça, quand tu dis non. Non est une phrase complète, hein? Moi, j'ai entendu ça souvent.
Absolument.
Non est une phrase complète.
Je n'avais jamais entendu ça et je vais le mettre dans ma petite poche, ça et la justification. Parce que tu as nommé quelque chose d'extrêmement important. Je veux dire, si Rémi, qui est tout le monde à un moment ou un autre dans nos vies, n'avait pas dit non à ce moment-là, des fois, on s'empêche de dire non pour ne pas froisser nos relations et pour ne pas leur mettre fin, etc. Mais au final, on met de la distance dans ces relations-là parce qu'on se met à être fâché, avoir du ressentiment, à être superficiel. On ne peut pas être vrai dans ces relations-là. C'est des choix qui sont basés sur la peur. Donc, c'est comme si ça devient un petit peu contre-productif. Je ne sais pas qu'est-ce que ça résonne en vous,
mais c'est sûr que
le
ça
but
demande...
est pas atteint. Là.
C'est sûr que ça demande du courage de dire non, parce que, comme tu as dit, on ressent la peur. Il y a toutes sortes de craintes qu'on peut avoir. Est-ce que ça va changer ma relation? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va écrire quand même une bonne lettre de recommandation? Est-ce que j'aurai une chance d'être accepté au doctorat? Mais ça peut être n'importe quel emploi. Aussi ton patron, ton boss qui a des attentes, des évaluations de performance, etc. Donc, mais il y a quelqu'un qui a dit un jour, tu sais, ressens la peur, mais fais-le quand même. C'est-à-dire que le courage, c'est ça qu'il veut dire. C'est pas de peur de peur, c'est de le faire malgré la peur parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire.
Mm-hmm.
Jean-Marie, tu as parlé tout à l'heure de cette fatigue-là, si tu te sens fatigué, mets-toi des limites pour te respecter dans ton énergie physique et à cet effet-là, parce que je me dis, il y a des conséquences claires à ne pas respecter ses limites. Justement, on peut tomber malade là, à un moment donné si on n'écoute pas ces limites-là. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y aurait dans la société des limites qui sont plus acceptables que d'autres à respecter? Est-ce qu'on nous encourage à en respecter certaines plus que d'autres? Parce que ça m'a fait venir cette idée-là de la performance, de la fatigue. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup encouragé à nous écouter là-dedans.
On valorise la performance. On va valoriser dans notre société quelqu'un qui performe, quelqu'un qui fait de l'argent, quelqu'un qui a un agenda chargé, quelqu'un qui a une belle voiture, quelqu'un qui
est fatigué,
bien.
C'est quelqu'un qui a fait sa job, hein?
Oui, mais en même temps, non. Je veux dire,
non.
Oui, t'as raison, il a peut-être fait sa job, mais je ne pense pas qu'on va valoriser le gars qui est fatigué. Par contre, on va valoriser la personne qui performe et qui est capable d'en rentrer dans un horaire, qui réussit à dormir juste 3-4 heures par jour puis qui fait une maudite belle job puis qui en fait des affaires. On va applaudir ça, dire « Oui, OK, mais à quel prix? »
Ouais.
Moi, je pense que une des choses que j'ai développées avec les années, c'est est-ce que ça va m'apporter plus de bonheur si je dis oui ou si je dis non? Quand tu arrives à te connaître, tu le sais, puis je prends l'exemple de Rémi avec son professeur. S'il dit, OK, je vais prendre cette tâche-là, mais que tu as pris le temps de dire, c'est vrai que si je dis oui, je vais être responsable du réseau social de cette université-là, je vais apprendre, ça va me mettre en contact avec des gens. OK, je vais être obligé de dire non à certaines affaires, mais si je dis oui à ça, c'est que ça va me faire grandir, puis wow, OK, je dis oui. Donc, il y a un inconfort, il y a une négociation en toi qui te fait prendre une décision. Mais ça se peut qu'après cette réflexion-là, tu dises non. Non, ça va m'apporter plus de tort si je dis oui, parce que ça va affecter ma relation avec ma blonde. Je vais moins dormir, je vais avoir moins de temps. Tout ça pour faire plaisir à mon prof? Non. Donc,
finalement,
je me choisis.
C'est prendre un temps de réflexion avant de prendre sa décision, pas réagir tout de suite.
Bingo.
C'est-à-dire, il faut que j'attende puis que je considère la décision, les pour, les contre, intentionnellement.
Mmh. dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Des tonnes, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais. Je dépasse les limites sans un problème éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Les limites, aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris.
Jean-Marie, tu es l'animateur de cette magnifique et très populaire émission Face à la rue, qui était à Moi et compagnie, qui est maintenant rendue à TVA. Et tu fais un travail magistral d'humain dans, dans cette émission-là.
Merci.
Et moi, on s'est parlé, je sais qu'elle te nourrit quasiment plus que ce que tu donnes aux autres, dans le sens où tu en retires énormément personnellement. Il y a quand même un jeu de limite dans ce travail-là que tu exerces précisément dans cette émission-là, qui est d'aborder l'itinérance et de la mettre en visuel pour qu'on comprenne bien cette réalité-là. Mais ça demande des mains de fées, de magiciens pour faire un partage authentique de cette réalité-là sans tomber dans le spectaculaire, dans le dramatique. Est-ce que tu as eu à te questionner sur cette limite-là à ne pas franchir? Et est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir?
Réponse à ta première question, zéro. Je ne me suis jamais, jamais questionné.
Mais en es-tu conscient?
Ben, écoute, je vais te dire ce qui anime la série Face à la rue et ce qui m'anime quand je le fais, quand je travaille sur le terrain, quand on fait nos entrevues, quand on travaille en équipe, c'est deux mots, la vérité et la vulnérabilité. J'ai besoin d'être dans un état de vulnérabilité et d'être dans ma vérité. Bien, l'un ne va pas sans l'autre, c'est les deux côtés de la même médaille. Et c'est ce que les gens en situation d'itinérance incarnent avec brio. C'est des gens extrêmement vulnérables et qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient extrêmement vrais aussi dans leur vulnérabilité. On dit souvent, c'est que ça a quasiment l'air d'une phrase toute faite, mais tu sais, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Bon. Alors, je ne me suis pas questionné dans ma façon d'être. Je me suis juste dit, sois vrai. Sois juste toi-même et sers-toi de tes 25, 30, 35 dernières années de vie et mets ça au service de l'autre. Mets ça au service de la série. Et que à tous les jours qu'on tournait, on en vivait des émotions. Je ne me souviens pas de ne pas avoir pleuré aux journées de tournage qu'on avait. Par contre, j'avais des balises. Je vais faire plaisir aux psychologues autour de la table. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est que j'avais des moments où je pouvais ventiler avec ma productrice, avec mon thérapeute, avec un de mes meilleurs chums, et je leur racontais ma vie, je leur racontais ma journée, et je leur racontais souvent ce qui m'étranglait, c'était mon sentiment d'impuissance. C'était mon sentiment de « je vois de la souffrance, je vois de la détresse,
Et ma propre limite dans ma capacité à agir?
Bien, complètement, parce que l'autre est dans une situation d'impuissance, toi aussi. Mais le fait de le nommer, ce sentiment d'impuissance-là, tu es déjà moins impuissant. Tu es capable de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Et d'avoir commencé à faire ça dès le jour 1, ça a fait en sorte que j'ai pu accumuler un sac à dos plein d'émotions, mais que je vidais à tous les jours.
C'est fondamental ce que tu dis, parce que dans les relations, et tu l'as vécu, cette idée-là de savoir connaître nos limites, et de, des fois on reconnaît cette limite-là, et je l'ai vécu moi aussi quand j'étais clinicienne, on en a parlé en micro fermé justement, de cette idée-là où ton impuissance, ou de t'arrêter où tu dois t'arrêter, ce qui ne t'appartient pas, mais avoir des limites, ça permet de sortir de ce triangle-là qu'on connaît bien, le triangle de Cartman. Ça, c'est le mot savant pour dire le bourreau, la victime, puis le sauveur. T'sais, quand on a des limites, on arrête de vouloir sauver tout le monde. On connaît notre place. Quand on sait reconnaître les limites des autres, on peut arrêter d'être bourreau. T'sais. Et quand on respecte nos propres limites, on arrête d'être victime des autres.
C'est beau.
Mais ça, c'est le cute de l'histoire. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour appliquer ça, les gars? Rémi, comment on commence à reconnaître et appliquer nos limites? Par où on peut commencer?
Mais je pense qu'il y a deux aspects. D'une part, par rapport à reconnaître nos limites, un peu comme on a parlé avant, je pense que c'est basé notamment sur l'expérience, c'est la connaissance de soi, comme sur la pleine conscience, etc. Puis c'est aussi avoir de l'autocompassion pour soi-même, parce qu'on peut pas être le meilleur dès le départ, tu sais. Ça prend du temps à développer. On peut pas s'attendre à ce qu'on va connaître nos limites. Ça demande un effort. Puis avec le temps, on va devenir meilleur à identifier nos limites. Ça, c'est une première chose.
Mm-hmm.
Puis maintenant, la deuxième chose, je pense que le plus gros problème, c'est pas qu'on n'est pas capable de reconnaître nos limites, mais c'est qu'on a tendance, à cause de divers biais cognitifs, à sous-estimer le temps puis l'énergie que nos responsabilités puis les choses qu'on a à faire vont nous prendre. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on se surengage.
On évalue mal nos affaires.
Exactement. On évalue mal nos affaires. Puis ça fait en sorte qu'on en prend trop. Et à cause de ça, on dépasse nos limites. Mais en fait, si ce serait dans un monde idéal, on serait capable de parfaitement évaluer combien de temps les choses vont nous prendre, puis on serait parfaitement organisé, je pense qu'on respecterait mieux nos limites. Mais il y a des trucs pour en arriver là, puis ça passe notamment par l'organisation, la clarté, puis faire une espèce d'effort intentionnel pour être aussi plus sélectif par rapport à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Tu peux poser la question de même, est-ce que ça m'apporte de la joie ou est-ce que ça m'apporte du sens?
Puis ça, si c'est la réponse, une question clé.
Ouais, est-ce que ça m'apporte du bonheur? Puis si la réponse est non, ben pensez deux fois avant d'accepter ça. Mais si la réponse est oui, c'est un signe que tu peux aller de l'avant.
Mm-hmm. Être vrai, est-ce que ça pourrait être aussi une clé à respecter nos limites?
Ben je pense que c'est la base. Puis on revient à dire, c'est connais-toi toi-même, c'est la base. Puis ça, ben je pense que quand tu arrêtes de vouloir plaire, mais tu veux être vrai, ça change la donne. Je reviens à face à la rue, quand je suis avec une personne dans la rue en situation d'itinérance et que tout ce que je veux, moi, c'est de l'écouter, de me laisser toucher, submerger par son histoire, ça, vraiment me baigner avec lui ou elle dans son histoire, je suis pas en train de jouer au sauveur, je suis pas en train de... Non, je suis en train d'être avec toi. Je suis dans ma vérité, dans ma vulnérabilité, dans mon impuissance avec toi, mais je suis là pour te faire sentir que tu es un humain. On a tellement dans la société mal considéré les gens en situation d'itinérance. On les a considérés souvent comme des sous-humains.
On les a souvent pas considérés.
On les regarde aussi. Même pas. Mm-hmm. Alors moi, je veux juste être avec toi. C'est ça la compassion. Je suis avec toi. Et ça, la condition, c'est d'être vrai. Tu ne peux pas être là-dedans si tu n'es pas authentique. Alors moi, je ne suis pas en train de vouloir plaire puis de vouloir me faire dire « Hey, tu fais une belle job d'animateur. Wow, je vais voter pour toi au prochain gala ou whatever. » Non, on s'en calisse. Excuse-moi. Moi, je suis juste être là pour la chance et le privilège d'avoir un gars ou une fille qui raconte sa vie. Quel cadeau. Alors moi, j'ai ce cadeau-là d'être avec toi.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que parfois, en étant vrai, on peut avoir cette reconnaissance-là sans passer par le non-respect de soi et le non-respect de nos limites. C'est comme si être vrai, c'était garant d'une réelle considération si elle vient.
La reconnaissance, à la base, vient dans l'action du moment présent, dans cette espèce de résonance avec l'autre. Je te reconnais, tu me reconnais, nous sommes ensemble. Ça, t'as pas besoin d'être applaudi en plus. T'as déjà ta récompense. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et c'est à ça que nous devrions carburer encore plus dans notre société.
Jean-Marie,
oui.
En mon nom personnel, mm-hmm. et au nom de toute l'équipe du Canal M, toute l'équipe de CKVL, toute l'équipe dont on est tous des humains, je te dis bravo pour ton Gémeaux
oh.
que tu as gagné récemment et que tu as gagné avec ton cœur. Et c'est là qu'on voit que quand on travaille avec notre cœur, ça rapporte dans une considération une reconnaissance différente également.
Et inattendue.
Absolument. Félicitations, bravo, prends-le, il est à toi, il est bien mérité.
Merci.
Je rappelle à tout le monde que l'émission Face à la rue va être en rediffusion. Il y a également le spécial Face à la rue, que sont-ils devenus, qui sera disponible sur le Moi et compagnie pour les abonnés, avec plusieurs rediffusions qui vont venir dans le temps des fêtes. Tu es revenu toi-même de l'Inde il y a peu de temps.
Mm-hmm.
On a quand même ton livre également, Face à la rue, qu'on peut se procurer. Dans...
Être face à la rue, ça c'est le titre du livre.
Oui.
Puis on vient de lancer un dernier livre qui s'appelle Confession d'un prêtre de la rue. C'est l'histoire de Claude Paradis, qui est un prêtre, qui était un émule ou un étudiant de Pops. Donc, il y a aussi ce livre-là chez les éditions Novalis. Puis les autres livres, c'est les éditions Libre Expression.
Et tu es toujours pas... porte-parole de l'organisme L'Éclaircie.
Et du défi sportif Altergo.
Oui, exactement. Merci d'avoir été là.
Merci, ça fait plaisir.
Rémi, tu es toujours au doctorat, tu finis ta thèse et tu es également représentant régional pour le Québec de la section étudiante de l'Association internationale de psychologie positive. Merci beaucoup
oui.
d'avoir été là encore une fois.
Merci.
Souvent, on a peur de mettre nos limites parce qu'on veut pas se faire détester. On veut que les gens nous aiment. Nous, les humains, on fait ça. Puis on est nés pour ça, aimer et être aimé. C'est la base de tout ce qu'on fait dans la vie. Mais rappelons-nous que quand on ne met pas nos limites, quand on ne les fait pas respecter, non seulement on développe du possible ressentiment, mais également de la colère envers ceux qui ne nous respectent pas tout d'abord. C'est envers soi qu'on manque de respect, c'est envers soi qu'on manque d'amour. Poser ses limites, c'est s'assurer de continuer à s'aimer soi et à aimer l'autre, malgré le risque de le déranger le temps d'un nom. Poser ses limites, c'est au moins s'assurer que l'amour qu'on partage, c'est basé sur qui nous sommes vraiment, dans le malgré et non pas juste le à cause. À la semaine prochaine.
I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.